Fluxfor.
La web station européenne.
Vous écoutez Fluxfor.
Fluxfor. Écoutez Fluxfor sur fluxfor.eu.
Fluxfor de retour au Festival Entrevue pour la dernière série d'émissions consacrée à la 28e édition du festival. Alors, nous a rejoint Marc Fitoussi, réalisateur de Copacabana, film projeté dans le cadre de la transversale, la Comédia des ratés. Bonsoir Marc Fitoussi.
Bonsoir.
Alors juste avant de parler du film, Marc Fitoussi, vous nous disiez hors micro que vous sortez tout juste de Ponette de Jacques Villon.
Oui, tout à fait, que je n'avais jamais vu. Et voilà, c'était l'occasion de découvrir ce très beau film. Je suis un peu triste d'avoir quitté là le débat puisque se déroule en ce moment un débat entre le réalisateur donc, et aussi Caroline Champetier, la directrice de la photographie. C'était assez passionnant.
Et alors ce film, oui, vous disiez donc que vous ne l'aviez jamais vu ?
Non, je ne l'avais jamais vu. Enfin, j'ai vu pas mal de films de Jacques Doyon, mais pas celui-ci. Que je me souviens de ne pas avoir voulu le voir à sa sortie du fait de son sujet, le deuil, et une petite fille de 4 ans, voilà. Et j'étais peut-être là mieux préparé à le découvrir.
D'accord. Alors Marc Fitoussi, je le disais, donc vous êtes là parce que était projeté cet après-midi justement Copacabana, un film que vous avez réalisé en 2007. Alors dans Copacabana, on suit l'itinéraire d'Elisabeth Di Babou, qui est interprétée par Isabelle Huppert, qui est une ancienne globe-trotteuse désormais installée à Tourcoing où vit sa fille Esmeralda, qui elle est interprétée par Lolita Chama, la fille d'Isabelle Huppert également, dans la vraie vie donc. Aussi sérieuse et stable que sa mère est frivole et imprévisible. Esmeralda en a un peu ras-le-bol de sa mère et décide un jour de lui annoncer qu'elle compte se marier, mais que celle-ci n'est pas invitée. Babou, blessée, décide de partir travailler à Ostende. Là, elle vend des appartements en multipropriété et contre toute attente, se débrouille plutôt bien. Mais ce, sans renier son refus des conventions et son anticonformisme. Cela va la mener aussi à un licenciement, puisqu'elle aura hébergé deux travelers dans l'un des appartements destinés à la vente. Alors, Babou décide d'aller parier sa solde au casino. Elle gagne, et ce qui va placer au final cette comédie Tous sa mère sous le signe d'un réel optimisme. Alors, vous nous disiez également, hors micro, Marc Fitoussi, que ce film, pour vous, il date un peu, il est déjà un peu loin. Pourtant, vous l'avez réalisé en 2010.
Je l'ai... Oui, alors, il s'est tourné en 2009, il est sorti en 2006... En 2010, pardon, et... Non, mais disons que, moi, depuis, j'ai fait deux autres films, en fait, donc... J'ai un film qui est sorti en salle l'année dernière qui s'appelait Pauline Détective, qui était une comédie beaucoup plus assumée, qui était une sorte de parenthèse même, puisque c'était une comédie très très colorée et qui justement était un peu débarrassée de tout ce fond social que peut contenir Copacabana. Et là, j'ai tourné en mars-avril dernier un nouveau long métrage, toujours avec Isabelle Huppert, donc... On s'est retrouvé sur ce nouveau film et voilà, et je suis en plein dedans, c'est-à-dire que là on est on vient de terminer le montage, on est dans la phase de l'étalonnage et voilà, si bien que me replonger dans Copacabana, enfin pour moi c'est un peu l'histoire ancienne, même si voilà, je m'en souviens évidemment très bien, mais c'est un peu étrange, voilà, de venir par exemple dans le cadre d'un festival pour parler d'un film voilà qui n'est plus à mon actualité, on va dire.
Alors, juste une chose, ça, justement, c'est aussi quelque chose que dit Jacques Doyon, par exemple, parmi d'autres réalisateurs. Il dit qu'au moment où l'un de ses films sort, enfin, où un film sort, pour lui, c'est toujours assez étrange d'en parler parce qu'il est déjà projeté dans le film à venir.
Oui, c'est vrai qu'en tout cas, je me souviens de lorsque je faisais la promo, en tout cas, de Pauline Détective. Moi, j'étais déjà très accaparé en fait par le suivant, enfin sur lequel je travaillais en fait dans sa préparation, etc. Et oui, enfin bon, après c'est plus un exercice à trouver. Il suffit simplement de s'entraîner un petit peu. Et là, par exemple, j'avais très peur, par exemple, du débat qui a suivi la projection de Copacabana, en me disant est-ce que je vais être encore capable de répondre à des questions au sujet de ce film. Et finalement tout va bien, mais c'est une sorte de gymnastique, voilà, qui revient.
Antoine Filippi,
En même temps, même si le film date de 2010, c'est encore un film qui est terriblement d'actualité. Parce qu'on voit que le personnage de Babou, c'est finalement un petit peu un pied de nez à cette mentalité autour de la sinistrose, de la crise, les gens qui n'arrêtent pas de se plaindre. Et elle, au contraire, elle met plein de vie, plein de légèreté. Elle s'en moque et elle continue à avancer. Et en 2013, c'est encore d'actualité, ce phénomène-là.
Ah oui, ça l'est complètement. Non, mais c'est, en tout cas, je me rends compte de ça, en plus, avec... a posteriori peut-être, enfin, c'est que je ne me rendais peut-être pas compte au moment où je tournais le film, au moment où je l'ai écrit, que ce personnage voilà, interprété par Isabelle Huppert allait être si emblématique voilà, d'une sorte de résistance voilà, à notre époque et à un climat ambiant. Enfin, puisque chez Babou, c'est un choix de vie, enfin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voilà, a fait le choix de barouder, de vivre comme ça de petits boulots et qui a été incapable de rester en place et de se poser. Enfin, et ce qui est intéressant en tout cas, c'est que le film sans doute déclenche souvent en tout cas voilà, des interrogations sur est-ce qu'on peut mener cette vie-là, est-ce qu'on est obligé de rentrer dans le moule.
Justement, dans votre regard de réalisateur, en tout cas le spectateur que je suis, a l'impression que vous positionnez plutôt sur le personnage de Babou, avec ce choix de vie empreint de légèreté et liberté, plutôt que le choix que fait sa fille.
Très clairement, oui, j'ai plus d'admiration pour un personnage qui a su résister justement à ses conventions et qui a cette liberté-là et cette fantaisie-là encore adulte. Enfin, le choix de sa fille qui, à peine 20 ans, veut se marier, se ranger, fonder une famille et ne pas découvrir le monde, c'est un choix de vie que je respecte évidemment, mais enfin voilà, que je trouve évidemment beaucoup moins glorieux, quoi.
Vous disiez également lors de la rencontre que dans l'une des premières versions du scénario, l'histoire était celle d'une représentante de commerce qui perdait son emploi. Qu'est-ce qui a fait que le scénario a
Le scénario a changé parce que qui dit représentante de commerce sur les routes, c'est-à-dire VRP, c'était sillonner en tout cas des paysages et rendre le tournage extrêmement compliqué. C'est-à-dire nécessiter forcément différentes régions qui auraient pu alors nous aider. Enfin. Beaucoup tourné dans une voiture et bon ça c'est très perso mais je déteste ces séquences à tourner dans une voiture avec une voiture traveling etc puisque par exemple Isabelle Huppert je pense pas révéler de secret mais n'a pas son permis donc on aurait dû forcément tourner avec une voiture traveling qui la tracte j'ai après, essayer de trouver comme ça un métier un peu... parce que là, elle se retrouve donc à vendre des appartements multipropriétaires à Ostende, ce qui est assez incongru, puisqu'elle fait ça en plein hiver. Lors de cette saison où les touristes sont complètement absents. En tout cas, je me suis reporté vers ce métier parce que je cherchais en tout cas quelque chose d'un peu incongru. Enfin, et ce que j'aimais bien dans le métier de VRP, c'était aussi enfin, la fin d'une ère en fait, où aujourd'hui les VRP enfin, finalement n'étaient plus si nécessaires avec Internet, etc. On pouvait presque s'en passer, quoi. Enfin, ça rendait donc sa tâche extrêmement difficile, comme là, lorsqu'elle doit vendre ses apparts.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont évolué comme ça dans le scénario, en raison de contraintes aussi de réalisation
ou... Oh, mais il y en a toujours, en fait. Enfin, entre la toute première version et puis le film fini, même, puisque à l'étape du montage, il y a aussi plein de choses parfois qui se réinventent. En tout cas, enfin, je pense qu'on ne parvient jamais à tourner la première version du scénario. Enfin, effectivement, Copacabana a beaucoup beaucoup évolué. Il y avait d'ailleurs même un autre titre. Enfin bon, voilà. Donc, disons, en plus de ça, c'est un film. Enfin, parce que j'ai mis beaucoup de temps à tourner mon premier long, enfin, puisqu'on met toujours évidemment beaucoup de temps à financer un premier long. J'ai eu le temps d'entamer l'écriture de Copacabana avant de tourner mon premier long et d'y revenir après. Donc finalement, c'est un scénario qui a beaucoup mûri enfin, et qui a aussi beaucoup patienté.
Alors, vous disiez toujours à cette fameuse rencontre qui a suivi la projection, Marc Fitoussi, que vous avez écrit donc, le rôle d'Esmeralda en pensant à Lolita Chama, avec qui vous aviez déjà tourné précédemment, mais que Isabelle Huppert a rejoint le projet plus en cours de route. Qu'apporte pour vous le fait d'avoir à l'écran la mère et la fille interprétant une mère et sa fille ?
À vrai dire, moi, ce qui me faisait un tout petit peu peur avec ça, au tout début, c'était l'impression d'un coup médiatique, c'est-à-dire réunir mère et fille, ça avait un côté un peu presse people, qui me faisait peur et qui ne me tentait pas forcément. Il s'avère juste que, j'ai d'abord pensé à Lolita Chama, avec qui j'avais fait La vie d'artiste, que je la trouvais parfaite pour ce rôle d'Esmeralda, que derrière il a fallu réfléchir évidemment à qui pouvait jouer sa mère, et que parmi les actrices de cette génération-là, pour moi, la meilleure était sans conteste Isabelle Huppert. Et il s'avérait donc que c'était la mère de Lolita. Donc j'aurais compris si Lolita, que j'ai donc questionné, m'avait dit non, je n'ai pas envie de tourner avec elle, etc. Et je pense que je serais allé vers quelqu'un d'autre, parce que je voulais surtout former un duo qui fonctionne. Et évidemment, au fond de moi, je me disais que réunir une vraie mère et une vraie fille dans la vie allait faire que le duo allait forcément fonctionner, et qu'il y avait certainement une complicité entre elles que je n'aurais pas à créer et qui serait comme ça immédiate.
Et elles-mêmes, est-ce qu'elles ont eu des réserves au début ?
Non, mais c'est pour ça que j'ai d'ailleurs questionné Lolita, c'était pour m'assurer qu'elle n'avait pas de réserve, et elles m'ont dit, en tout cas Lolita m'a dit qu'elle cherchait justement un projet qu'elle pouvait faire avec sa maman, elles avaient très envie de travailler ensemble, elles l'avaient déjà fait, mais sans avoir de scène commune, en tout cas sur de mêmes projets. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, puisqu'on a démarré le tournage, si mes souvenirs sont bons, par... la toute première séquence était la séquence dans le restaurant, ce déjeuner où elle convie les travelers à table. Donc c'était une scène entre elles de conflit très, très assumé. Et j'ai quand même tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui me facilitait la tâche en tant que directeur d'acteur, en tout cas.
Antoine Philippi.
Dans le film, on a l'impression que vous recherchez un petit peu des confrontations qui sont parfois inattendues. La confrontation mère-fille est classique, un petit peu moins pour ce qui est Ostende, le Brésil, Isabelle Huppert et son rôle un petit peu axé sur un rôle de comédie, Viranger, vie délurée. C'est votre marque de fabrique dans le cinéma ?
Non, mais je fais aussi des films pour moi-même être surpris et m'amuser. Et c'est vrai que quand moi j'ai rencontré Isabelle Huppert, c'est vrai que j'étais assez honnête avec ça. J'étais un tout petit peu lassé du grand nombre de rôles qu'elle avait pu faire récemment, des rôles très, très sombres, où elle semblait très, très glaciale, très distante. Et j'avais envie de la voir renouer avec ce qu'elle sait admirablement bien faire, c'est-à-dire la comédie. Et ces souvenirs-là remontaient à Sac de Nœuds de Josiane Balasko ou à La femme de mon pote de Bertrand Blier. Donc c'était vraiment pour le coup, d'abord avant tout, un plaisir de spectateur de cinéma qui avait envie de revoir ça. Et ces mariages un peu inattendus, c'est-à-dire par exemple la mettre face à Louis Rego, je trouvais ça aussi très excitant. Parce que Louis Rego, je le voyais plus à travers les Charlots ou des comédies avec Coluche. Et le mettre face à celle qu'on considère aujourd'hui comme l'actrice la plus cérébrale du cinéma français, je trouvais ça incongru et intéressant.
Mais est-ce que aussi justement ce désir de sortir un comédien d'un registre dans lequel il pourrait être un peu confiné, c'est quelque chose qui peut être pour vous à l'origine d'un film ?
Moi je suis pas forcément très fan du contre-emploi, c'est-à-dire que quand j'ai choisi Isabelle Huppert, je me suis pas dit je vais lui donner à jouer un rôle à milieu de ce qu'elle a pu faire. C'est que j'avais envie de retrouver cette veine-là chez elle, j'avais un peu perdu, mais j'étais parfaitement sûr de mon coup. J'aime pas trop pour le coup
le contre-pied,
ces acteurs comiques qui se forcent à avoir un rôle très grave dans leur carrière pour prouver qu'ils savent tout jouer. Ça donne parfois lieu à de très beaux films et de très beaux rôles, mais c'est pas en tout cas c'est pas en tout cas comme ça que moi j'aime opérer, quoi.
Antoine?
Oui, ce qui caractérise aussi Copacabana, c'est l'importance des seconds rôles et la place que vous leur accordez, notamment par exemple au personnage incarné par Ratika. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de votre cahier des charges de réalisateur.
Oui, là je peux. C'est vrai que là je peux y revendiquer une sorte de signature, dans le sens où je pense de toute façon que je fais un cinéma qui est extrêmement. Qui accorde une énorme place aux comédiens et aux jeux. Et c'est vrai que je n'aime pas me contenter de mes rôles principaux et de vraiment laisser au second plan les personnages secondaires qui je dis ça parce que je c'est peut-être une faiblesse de ma part aussi de vouloir tous les mêmes mettre au même plan et de ne pas parvenir à créer une sorte de hiérarchie. Moi, en tout cas, lorsque je dois réfléchir au découpage d'une séquence, etc., enfin, je n'ai jamais en tête l'idée de privilégier le personnage principal et de me dire, comme son partenaire est secondaire, il peut être moins filmé, avoir droit à moins de plans. J'essaie de mettre en tout cas les personnages à égalité quand je les filme. Voilà, ce qui peut-être donne cet effet justement après au visionnage d'un film qui accorde une plus importance aux personnages secondaires.
Vous accordez donc, comme vous le dites vous-même, une grande importance aux comédiens dans vos films. Ça me fait penser à Jacques Doyon qui dit que ce qui vient en premier, ce qui est à l'origine d'un film, ce sont des dialogues, mais pas forcément, il ne pense pas forcément aux acteurs en écrivant. Vous, là, vous avez écrit en pensant à Lolita Chama, mais de façon générale, vous écrivez en ayant en tête des acteurs? Pas nécessairement.
En tout cas, moi, je me rends compte que je suis assez fidèle aux comédiens avec qui je travaille. J'avais par exemple travaillé avec Sandrine Kiberlin sur La vie d'artiste et j'ai retravaillé avec elle sur Pauline Détective. Et c'est vrai que moi, je suis très attaché, alors peut-être plus que le dialogue, enfin au phrasé de certains comédiens. Voilà. Et c'est vrai que je suis très sensible à ça et je trouve que j'aime en tout cas écrire mes scénarios et mes dialogues avec la certitude qu'ils pourront sonner juste dans la bouche de certains comédiens et que mon choix finalement ensuite au moment du casting se fait par rapport à ça, par rapport à ce phrasé. Parce que je fais aussi un cinéma qui est quand même assez bavard, assez dialogué. Et finalement, il n'y a pas tant de comédiens que ça qui savent si bien, dont j'aime entendre, disons, voilà, le phrasé et disons mes dialogues dits par eux, quoi. Et je sais que par exemple, voilà, Sandrine Kiberlin. Particulièrement plus dans la comédie, je trouve, voilà, enfin, que c'est quelqu'un qui a ce tempo-là, cette musique-là. Enfin, c'est quelque chose de ce que j'aime. Et si le film que je viens de faire, si j'ai aussi retravaillé avec Isabelle, c'est aussi avec cette certitude de pouvoir faire sonner les répliques comme je l'entendais, quoi.
Antoine Philippi.
Oui, vous venez de citer. Donc, en 2007 est sorti votre premier film, La vie d'artiste. En 2010, Copacabana. En 2012, c'était Paulette détective. Votre prochain projet, on en est où? Vous avez parlé de rôle de Madame Kiberlin.
Ce nouveau projet, s'est tourné là en mars-avril dernier, est un film à nouveau avec Isabelle Huppert, qui se passe dans le milieu rural. Donc Isabelle Huppert est agricultrice. Mais plutôt une grosse exploitation bovine. Son mari est interprété par Jean-Pierre Darroussin. Et là encore, pour reprendre ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que voilà, ce mariage-là, c'est-à-dire ces deux comédiens qui n'ont jamais joué ensemble, est quelque chose qui me plaisait. C'est vrai que je voulais à tout prix un duo qui n'a jamais tourné ensemble au cinéma.
Parce qu'en passant à Paulette Détective, vous avez aussi amorcé comme un virage assez net par rapport à Copacabana. On est sur une comédie avec Paulette Détective un peu plus haute en couleur. Et là, vous réentamez du coup un nouveau virage ?
Non, en fait, alors c'est vrai que Paulette Détective était un film très coloré, assez insouciant. Mais moi, j'ai un peu l'impression de...
continuité.
Oui, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir fait un virage. Disons que, en tout cas, voilà, j'accorde la même importance justement aux acteurs, aux personnages secondaires dans ce film-là. Si ce n'est que, voilà, enfin, dans Pauline Détective, enfin, il y avait une fantaisie qui était très très assumée. Il n'y avait pas de fond social. Enfin, et c'était un peu un film à la manière de, donc rempli de références, etc. Et j'avais moi-même conscience au moment où je le tournais que c'était une sorte de parenthèse, enfin, de film qui se voulait juste un divertissement. Je voulais m'essayer à ça. Et bizarrement, c'est peut-être mon film le plus subversif parce que ça a été le plus le film qui a le plus surpris. Enfin. Je me rends compte par rapport aux critiques, etc. Parce que faire aujourd'hui un film qui est presque, entre guillemets, sans fond, ça surprend. Enfin, et ça semble un parti pris voilà, très, très risqué. En tout cas, Folie Bergère, donc, qui est le prochain film, est, disons, un peu plus sur des rails, plus sage, puisque évidemment il y a un fond social et que le film est beaucoup plus ancré dans la réalité, ce que n'était pas Pauline Détective. Qui était voilà, une comédie juste divertissante.
Alors Copacabana qui se déroule entre Tourcoing et Ostende, Folie Bergère a priori qui se passe en milieu rural. Vous avez le goût pour les titres
un peu décalés.
Décalés.
Oui, d'ailleurs Folie Bergère, on n'est même pas sûr de pouvoir le garder. Enfin, on est dans ces histoires-là parce que c'est un titre, enfin c'est un nom protégé. Et donc voilà, on est dans des histoires de d'autorisation, de droit, etc. Mais oui, non, mais moi sur Copacabana, j'aimais bien ce titre. Bon, déjà parce qu'il avait un sens, puisque le personnage de Babou, enfin rêve du Brésil et fan de musique brésilienne. Et j'aimais bien voilà le parler d'un film qui parle de la précarité. De Tourcoing et d'Ostende en plein hiver et d'avoir ce titre si lumineux et si joyeux quoi.
Pour Folie Bergère, vous en êtes à quelle étape du film ? Le montage est fini ?
Le montage est fini et donc on est dans tout ce qui est assez laborieux à vrai dire, c'est donc ce qu'on appelle l'étalonnage et on a aussi voilà, enfin, la réalisation du générique, etc. Enfin, peaufiner quelques trucages. En tout cas, voilà, le film devrait être bouclé pour janvier prochain. Et il sortira en salle, a priori, en mai-juin prochain.
Très bien, mais merci beaucoup Marc
Fitoussi
d'être venu nous voir. Nous allons vous laisser juste une dernière question. Donc, après le palmarès, sera projetée la dernière séance de Peter Bogdanovich. Vous l'avez vu ?
Non, je n'ai pas vu. Je me souviens, j'ai vu un seul film de Peter Bogdanovich qui était une comédie avec Barbara Streisand que mes parents avaient enregistré en VHS et que je me revoyais souvent petit, que je trouvais très drôle. Voilà. Mais c'est un film que j'aimerais revoir parce que j'en garde le souvenir d'une comédie très très drôle et j'aimerais voir si, voilà, passé adulte, le film me fait le
passe
même effet.
Rampe.
Ouais, c'est ça.
Merci à vous.
Flux4.
Flux4.
La web station européenne.
Vous écoutez Flux4.
Flux4. Écoutez Flux4 sur flux4.eu.